Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font de l'actualité. Et notre invité ce midi, c'est Charles Wachetine, l'un des porte-parole du Palika. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Une dizaine de jours après la réunion du congrès du Palika, c'était les 11, 12 et 13 mars à Vaud. Un congrès qui s'est tenu 3 mois après le référendum du 12 décembre. Pourquoi un tel délai? Vous avez eu de la peine à analyser la situation, à fixer une stratégie?
Non, nous avions tenu une assemblée générale quasiment la semaine qui a suivi les élections, précisément pour tirer le bilan de ces élections. D'ailleurs, nous avons communiqué sur les résultats et pour dire au moins notre mécontentement.
Donc, que vous avez répété lors de ce congrès, d'ailleurs.
Absolument. Donc, à ce congrès, au-delà du scrutin du 12 décembre, des résultats qu'on a enregistrés, il s'est agi pour nous de tirer d'une certaine manière un bilan de la mise en œuvre des deux processus qu'on a enregistrés ces deux dernières années, à savoir les accords de Matignon-Oudinot et l'accord de Nouméa. C'était ça en toile de fond de nos travaux de ce 46e congrès.
Alors ce qu'on en retient essentiellement, c'est que vous ne validez pas les résultats du 3e référendum. Ça veut dire quoi? Pour vous, c'est irrecevable? Vous n'en tenez pas compte? Vous estimez qu'il n'y a eu que 2 référendums?
Oui, parce que la troisième consultation, entendons-nous bien sur les mots, il ne s'agit pas d'un référendum, il s'agit de la troisième consultation par l'accord. Et cette troisième consultation s'est faite sans nous. Nous avons demandé, quand j'ai dit sans nous, c'est sans le peuple calédonien, puisque au-delà du droit à l'autodétermination qui revient au peuple kanak, le peuple kanak a concédé ce droit aux autres citoyens du pays.
Donc, le peuple calédonien, vous parlez du corps électoral spécial pour la consultation.
Absolument.
En fait.
Donc, nous, on a dit que les résultats qui sont issus de ce scrutin sont irrecevables politiquement pour nous. Et l'organisation même de ce scrutin est pour nous politiquement illégitime, dans la mesure où, étant un scrutin d'autodétermination, le peuple concerné ne se sera pas exprimé.
Enfin, est-ce qu'il n'y a pas un peu de mauvaise foi quand même de votre part, Charles Wachetine? Pas vous directement, mais l'ensemble de la mouvance indépendantiste, c'est vous qui avez décidé de ne pas participer. Vous aviez le droit d'ailleurs de ne pas participer.
Pour les raisons.
Mais pourquoi est-ce que c'est pas un peu difficile de contester un scrutin auquel vous avez refusé de participer?
Mais pour les raisons que l'on sait tous et dont on a fait état publiquement. On a demandé simplement que l'on reporte, compte tenu de la situation du pays qui est frappé de plein fouet par le Covid. Donc, difficile pour nous d'engager une campagne de manière sereine, difficile d'aller auprès des gens, et d'autant que, et nous on l'aurait dit, l'État n'a entendu que ce qu'il a voulu entendre, parce que, et ça je reprends les termes notamment du ministre de l'Outre-mer, qui dit que en démocratie, les élections doivent se tenir à l'heure. Et oui, mais sauf que, là, on est dans un contexte particulier.
Même si malgré le Covid, le scrutin a pu se dérouler normalement, les gens pouvaient aller voter, ceux qui voulaient.
Oui, je rappelle qu'en France, pour les élections municipales qui ont eu lieu, il a fallu reporter. Nous, on a subi cette décision prise en France où nous-mêmes, nous avons dû organiser le second tour des élections quasiment un mois après. Donc pourquoi une différenciation là? La maladie touche tout le monde, quelle que soit leur couleur, quel que soit le lieu où s'exercent ces élections.
Tout de même, avec le recul, un peu plus de 3 mois après maintenant, vous ne regrettez pas finalement de ne pas y être allé pour qu'au moins le processus de l'accord de Nouméa, que vous puissiez considérer qu'il est terminé et d'avoir participé normalement à ce scrutin, vous qui vouliez le respect de la lettre, de l'esprit de l'accord de Nouméa?
Non, pas de regret. Je crois qu'on a pris la décision qu'on s'est imposée à nous dans la non-participation. On considère néanmoins que les 3 consultations, puisque c'est la réponse que nous a opposée l'État, qui considère que les résultats de la 3e consultation sont juridiquement valides. On en prend acte. On en prend acte. Mais dans le même temps, si on va dans ce sens-là, et c'est l'accord lui-même qui le dit, à supposer que, puisque c'est le cas, le non l'a emporté, que les signataires se retrouvent pour regarder la situation ainsi créée. Néanmoins, on continue à le dire, dans la mesure où on n'aura pas participé, on continuera à contester les résultats issus de ce troisième scrutin.
D'ailleurs, vous avez déjà engagé, ça vous l'aviez annoncé juste après le référendum, vous deviez engager des recours auprès du Conseil d'État, auprès du Conseil constitutionnel, auprès des différentes instances internationales. Vous avez fait toutes ces démarches et est-ce que ça a donné des résultats pour l'instant ?
Pour le moment, le recours qu'on a engagé auprès du Conseil d'État, notamment s'agissant de la demande de report, on a essuyé un refus de la part du Conseil d'État. On attend les réponses s'agissant des autres recours et on est en train de saisir via un collectif d'avocats, et c'est le FLNKS, hein, de nous rapprocher notamment du tribunal de La Haye.
Du tribunal de La Haye pour demander l'annulation de ce troisième référendum pour...
Éventuellement.
Et alors maintenant, vous réclamez donc un nouveau référendum, un référendum d'autodétermination. Alors, ce n'est pas une consultation, c'est un référendum d'autodétermination.
C'est un référendum d'autodétermination.
Organisé par les Nations Unies ?
Absolument.
Alors, c'est quoi ? Comment ça marche ? Quel est le paramètre ? Quel est le corps électoral ? Quelle est la question posée ? Est-ce que vous avez déjà défini un peu tous ces éléments ?
Oui, alors, nous avons déjà, en termes de calendrier... Nous avons décidé que les discussions, puisqu'il s'agit donc d'aller aux discussions auprès de l'État, parce que c'est l'État qui, de manière formelle, va demander une consultation auprès de l'ONU, au nom notamment de la résolution qui a été prise au moment de l'inscription du pays sur la liste des pays autonomes. C'est l'État qui demandera un courrier donc, au comité des 24, notamment.
C'est la France qui demandera ce référendum d'autodétermination.
Voilà. Donc et nous, on ira à la discussion auprès de l'État, discussion qui s'ouvrirait, et ça c'est conforme à la résolution prise par le FLNKS, après les élections présidentielles et législatives. Je le redis, si la consultation du 12 décembre, met fin à la série des trois consultations au sens du droit interne français, elle ne met en aucun cas un terme au processus de décolonisation imaginé par l'accord de Nouméa, encore moins au droit inaliénable du peuple de la Nouvelle-Calédonie à l'autodétermination et à l'indépendance consacré dans la résolution du 12 décembre 1986. Donc pour nous, cette revendication, donc, elle reste. Et donc on ira donc, en discussion avec l'État en vertu de ce principe et de ce droit.
Donc ça dépend déjà, j'imagine, du résultat de l'élection présidentielle, oui. D'avoir une oreille attentive ou non de la part de l'État pour qu'il demande ce référendum auprès de l'ONU.
Ben, voilà, donc on aura de nouveaux interlocuteurs, donc ce sera ceux qui seraient issus à la fois des élections présidentielles et des législatives qui seront... nos interlocuteurs.
Mais alors pour l'instant, les Nations Unies n'ont pas remis en cause la procédure qui était suivie par la France. Il y a eu des observateurs de l'ONU tout au long du processus, il y en avait pendant le scrutin. Oui. Pour l'instant, ils n'ont pas bougé, ils n'ont pas contesté. Même au contraire, ils ont plutôt félicité la manière dont le processus se déroulait.
Oui, sauf que ceux qui supervisaient les élections, ils sont rattachés au secrétariat général. Et donc, ils n'ont d'avis que des avis, ils n'émettent que des avis techniques. D'ailleurs, le rapport nous sera communiqué. Le comité des 24 ne sera pas destinataire de ce rapport. Donc c'est deux instances différentes et nous on souhaite que ce soit le comité des 24 qui se charge notamment donc, de la mise en œuvre de ce référendum d'autodétermination dont on est demandeur. Et donc à ce moment-là, donc, l'ONU pourra, au nom donc, des principes édictés notamment par la Charte des Nations Unies sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est le comité de 24 qui suivra le processus qui sera mis en place.
Vous avez déjà pris des contacts, vous avez des retours favorables ou vous avez des interlocuteurs aux Nations Unies qui semblent prêts à suivre ce processus ?
Alors, pour le moment, on a des rendez-vous. Vous avez pu suivre donc, des rendez-vous qui sont tenus chaque année, notamment sous la supervision de la cellule des relations extérieures du bureau politique du Front. Je crois, dans la mesure où maintenant on passe à un autre stade, il faudra que cette démarche soit de plus en plus soutenue. Je rappelle sur le sujet que le FIP, dans un des... Il y a des pays donc membres
du Forum des îles du Pacifique.
Le Forum des îles du Pacifique, qui sont membres du comité des 24, ont demandé à ce que l'on réorganise un autre scrutin d'autodétermination. C'est dire que la question aujourd'hui intéresse notamment un certain nombre de pays membres du comité de 24, et on souhaite que ces pays-là donc, nous accompagnent dans notre démarche pour organiser ce référendum d'autodétermination.
Ça veut dire que là, vous vous situeriez dans un contexte complètement différent de celui de l'accord de Nouméa, que vous estimez que l'accord de Nouméa est clos malgré tout après ces trois consultations ?
Il court au moins jusqu'en 2024. Oui. C'est aussi le calendrier dans lequel on travaille. Donc nous avons sur le sujet prévu, au moins par rapport à notre propre organisation, un congrès annuel qui est prévu au mois de novembre pour évaluer l'avancement des discussions qu'on aura avec l'État sur le sujet. Et au mois de novembre, là aussi, donc, certainement donc, des démarches engagées auprès des Nations Unies sur cette question, on fera le point donc, au mois de novembre et on dira ce qu'il en est. On aura noté notamment que dans les discussions qui sont ouvertes et sur lesquelles se fonde l'État pour organiser le référendum de projet, puisque c'était dans le sens du document qu'il a remis aux Calédoniens, six discussions demain devaient s'ouvrir sur un référendum de projet. Pour nous, il devra porter sur l'indépendance en partenariat, qui est le projet qu'on a défendu depuis 2013. Et malheureusement, et c'est aussi le constat que l'on fait aujourd'hui, les sollicitations qu'on a eues, et d'ailleurs donc on a saisi l'État sur cette option, l'option d'indépendance en partenariat, l'État, pour le moment, ne s'est pas intéressé à cette option et n'a pas donné suite aux sollicitations qu'on a formulées, notamment par l'intermédiaire de UNI.
Mais alors ces discussions, quand est-ce que vous voulez qu'elles s'ouvrent et sous quelle forme ? Est-ce que vous êtes toujours dans l'idée de discussions bilatérales uniquement avec l'État, ou est-ce que vous envisagez de discuter également avec vos partenaires locaux de l'accord de Nouméa ?
Pour le moment, on privilégiera les discussions bilatérales avec l'État, qui est pour le moment la tutelle du pays. Donc c'est la priorité. On n'écarte pas les discussions avec les autres, mais on souhaiterait que les autres également évoluent dans leur position. Quand on entend un certain nombre d'entre eux s'exprimer, notamment sur vos ondes, qui disent que les résultats aujourd'hui sont derrière nous et que pour eux, certains sont prêts à désinscrire le pays de la liste des pays autonomes à l'ONU, que certains aujourd'hui remettent en cause le corps électoral, pour nous, c'est irrecevable. Donc on a ce temps qu'on a prévu, donc 2024, c'est aussi un temps pour voir qu'on peut faire évoluer donc les positions et des autres. Et un des leviers qui nous semble important donc à utiliser, c'est le niveau institutionnel. On a la chance aujourd'hui donc d'avoir un nouveau gouvernement qui veut réhabiliter, qui veut la collégialité, qui s'engage sur des réformes sur les trois années à venir. Je pense que ce sont les réformes qui permettraient donc d'une certaine manière à ancrer, parce que c'est l'enjeu majeur, ce sentiment d'appartenance au pays. Je crois que tout le monde en a besoin lien.
On s'aperçoit quand même qu'il y a justement, sans remettre en cause la collégialité, il n'y a pour le moins pas de consensus sur les différentes réformes qui sont engagées. On voit bien, à chaque fois qu'un texte important est pris, il n'est pas voté par un certain nombre de membres du gouvernement.
Oui, mais parce qu'on est aussi dans une période pré-électorale. On sait qu'un certain nombre de personnes aujourd'hui se positionnent pour les législatives. Et on a entendu, notamment dans les dernières discussions s'agissant du budget de la Nouvelle-Calédonie, où chacun, d'une certaine manière, veut préserver ses points carrés.
Quand mais on c'est entend aussi parce qu'il discours, y a des engagements, des convictions, même économiques, qui sont peut-être différentes quand même entre les différents membres du gouvernement.
La réalité, effectivement, donc c'est là, mais la réalité, c'est aussi que tout le monde admette qu'on n'a pas de recettes nouvelles. Il faut faire avec. D'ailleurs, le nouveau gouvernement a dû contracter un emprunt auprès de l'AFD pour subvenir aux besoins pour pouvoir équilibrer son budget. Mais il y a des priorités, et la question de la protection sociale, la question du WAM est une priorité. Mais si on veut aller au bout de ce qu'on a envie de faire pour le pays, ça passe par des réformes. Et là, dont la réforme fiscale qui est attendue par tous.
Qui, en tout cas, elle ne fait pas l'unanimité. Vous pensez vous baser sur les institutions pour faire évoluer un peu les mentalités ? Vous n'avez pas de crainte d'une chute du gouvernement? On en parle, ça revient régulièrement. On sait qu'à partir du mois d'août, par exemple, le gouvernement pourra tomber. C'est un élément que vous prenez en considération ou ça vous paraît hors de propos aujourd'hui?
On a ça dans la tête d'une certaine manière. On sait qu'il y a les 18 mois, donc aujourd'hui, et quand on voit une forme de résistance au sein du gouvernement, on se dit qu'on n'est pas à l'abri de ça. Mais on souhaite, et je le dis ouvertement, on a plutôt intérêt à travailler ensemble, parce que les difficultés, elles se posent à l'endroit, et ça on l'a vu au moment des discussions budgétaires, d'ailleurs lundi, donc ce sera au cœur des débats au Congrès, elles se posent à l'endroit de la Nouvelle-Calédonie, comme elles se posent à l'endroit des provinces et des communes. La difficulté, c'est que chacun veut défendre son bout de gras. Oui, 770 millions au moins pour les communes. Et quand on voit derrière tout ça, alors que se pose la question sur l'avenir institutionnel du pays, où certains aujourd'hui imaginent la suppression, notamment des provinces. D'autres aujourd'hui considèrent que non, on va supprimer le gouvernement et que ce soit les provinces qui soient au cœur des institutions de la Nouvelle-Calédonie. Donc en toile de fond, il y a quand même ces éléments qui, d'une certaine manière, on va dire... Peut-être par rapport au débat actuel, donc ce sont des éléments qui perturbent ou qui nuisent au débat actuel pour qu'il se fasse dans des conditions sereines.
D'un autre côté, quand on voit l'ampleur des réformes nécessaires, quand on voit la situation économique et financière de la Nouvelle-Calédonie, est-ce qu'il est utile de remettre en perspective un quatrième référendum, c'est-à-dire une nouvelle incertitude institutionnelle, ou est-ce qu'il ne faudrait pas mieux... s'attaquer au quotidien des Calédoniens et lancer effectivement ces réformes en estimant que ça y est, l'accord est fini et...
Il n'y a pas d'incompatibilité. Il n'y a pas d'incompatibilité à concilier les deux. L'accord, je rappelle simplement deux éléments centraux de l'accord de Nouméa. Un, la refondation donc, du lien entre le peuple kanak et les autres communautés dans le cadre de la citoyenneté, qui préfigure en réalité la nationalité future. Et l'autre niveau, c'est la refondation du lien avec la France. Les deux chantiers doivent être engagés de façon concomitante. Parce qu'il nous faut sortir, et c'est sur ça où l'on est, c'est-à-dire qu'il faut sortir de ces rapports de domination de l'État avec nous. On est un petit peuple et quand on voit...
Vous avez vraiment le sentiment que ça existe encore, ces accords de nomination? Est-ce que ce n'est pas un vocabulaire qui est un peu dépassé aujourd'hui?
On n'a pas le choix et on voit bien, et quand on regarde ce qui se passe, notamment sur le plan économique, où notre système, notre économie est à l'image de l'indépendance que l'on a vis-à-vis de l'État. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est un nom. Je veux dire, c'est des discussions qui aujourd'hui sont en cours. La question de l'axe Indo-Pacifique. Et ça, on ne peut pas imaginer que la position de l'État aujourd'hui, telle qu'elle défend vis-à-vis de la Nouvelle-Calédonie, est motivée par sa présence dans cette région qui est devenue, qui est, on va dire, ouverte aux appétits d'un certain nombre de pays, et que la Nouvelle-Calédonie constitue, on va dire, le centre névralgique de cette présence française dans le Pacifique. Et dernièrement, on a vu...
C'est une protection aussi, éventuellement, face à les pays qu'on appelle prédateurs dans la région.
Non, absolument, ça peut se discuter. Ça peut se discuter. Nous on compte ouvrir ces discussions dans le cadre du partenariat futur. Comment on gère nos interdépendances? Comment l'État nouveau qui émergera...
Mais encore une fois, il faudrait pour ça qu'une majorité des Calédoniens... notamment si vous en restez au corps électoral gelé, mais même que les Calédoniens qui peuvent participer à la consultation soient d'accord avec cette vision de l'avenir, et pour l'instant, ce n'est pas le cas.
C'est ce qu'on constate, mais dans le même temps, on aura noté qu'aux dernières consultations, c'est des résultats, où on note que les partisans du non ont reculé d'une cinquantaine de voix. Alors, malgré le fort taux d'abstention, le non ne l'a pas gagné aussi facilement.
Il y avait un certain nombre de raisons, et vous le savez, du fait que les gens, effectivement, ne voulaient pas aller voter, les uns en se disant que le résultat était couru d'avance, les autres parce qu'ils avaient un peu peur d'aller voter s'ils voulaient voter non. Il y a comme tous ces éléments-là, vous le savez bien.
J'ai peur quand on sait comment ça s'est passé.
On ne va pas refaire le match. Il est fini.
Je suis d'accord avec vous.
Ces positions sur le troisième, un éventuel quatrième référendum, sur l'ONU, sur... vous les partagez avec les autres composantes du FLNKS ou pour l'instant il n'y a que le Palika, c'est vous qui défendez cette position,
on
c'est pas celle de l'UCR.
On a un congrès qui est prévu le 7 et 8 mars, donc l'idée c'est qu'on parle d'une même voix, qu'on porte le même projet et que pour les, au moins les années qui arrivent, qu'on soit sur la même ligne d'une certaine manière. Hein, parce que c'est qu'en étant ensemble qu'on peut, on va dire, convaincre.
Pour l'instant, aucun de vous ne souhaite en tout cas s'intégrer dans le calendrier de 18 mois qui avait été prévu par le ministre des Outre-mer, qui nous a amené à juin 2023. Pour vous, c'est un calendrier qui aujourd'hui est caduque.
Nous, on ne sont pas engagés par ce calendrier pour la simple et bonne raison qu'on n'était pas à Paris, nous. On ne s'est pas rendu et ce calendrier-là a été arrêté au sortir des discussions de Paris, d'ailleurs comme la date du 12 décembre. Donc nous, on ne s'est pas engagés.
Et vous auriez dû
par
y aller.
Contre, on
comme
est engagé
ça, vous auriez
par
pu...
le processus de l'accord hein, jusqu'en 2024. Donc on travaille dans ce cadre-là.
Alors entre-temps, il y aura les élections présidentielles. L'élection présidentielle, le 10, avril, le 10 et le 24 avril. Là, vous allez finalement, vous allez vous y engager. Alors, une petite précision. Il y avait eu un deuil kanak d'un an qui avait été décrété. Il avait été invoqué pour ne pas aller voter au référendum. Il n'est plus valable, cette période de deuil n'est plus valable pour l'élection présidentielle ou pour les législatives.
Vous l'avez évoqué, il a été évoqué pour ne pas aller voter au référendum dans le contexte de l'époque. Donc, c'était ça. Donc, c'est une autre élection. Hein, présidentielles comme les législatives. Nous, on a fait le choix, au moins pour les présidentielles à notre congrès, de voter un candidat de gauche, au moins pour le premier tour.
Il y a une préférence pour l'un ou l'autre. Le Palika va quand même s'engager en faveur d'un candidat ou non? On sait que Louis Mapou, par exemple, a donné son parrainage à Jean-Luc Mélenchon. Vous avez parrainé personne?
Ça n'apparaît pas dans le rendu du Conseil constitutionnel. Mais pour nous, le parrainage, c'est une chose.
Oui.
Ah, le vote, c'est autre chose. Donc nous, dans tous les cas, candidats de gauche, et au mieux, ceux qui sont assez sensibles à la question de la décolonisation du pays.
Vous avez des contacts avec eux, avec l'un ou l'autre? Il y a Jean-Luc Mélenchon, il y a Anne Hidalgo, il y a Yannick Jadot, écologiste, plutôt de gauche quand même.
Pas
et puis,
personnellement.
Il y a Philippe Poutou et Nathalie Arthaud. Vous avez des contacts avec eux, non?
Pas personnellement. Je sais qu'il y a des comités, notamment pour Mélenchon, qui existent ici, donc physiquement là. Donc nous, on a dit simplement sur le sujet qu'on attend et on suit avec attention les résultats du premier tour pour voir qui on voterait pour, au second tour. Dans tous les cas, pour nous, pas question que l'extrême droite passe.
Déjà en 2017, vous aviez appelé à voter pour Emmanuel Macron au second tour.
Oui.
Ça pourrait être le cas cette fois-ci
Vu ce qu'il nous a fait, enfin, la question, elle se pose. Mais nous, dans tous les cas, puisque vous vous rappelez, à l'époque, il y avait une espèce de tradition chez nous. Donc, on a voté les candidats, notamment du Parti socialiste. Et c'était Benoît Hamon qu'on a soutenu au premier tour. Malheureusement, il n'est pas passé. Au second tour, c'est Macron qui s'est présenté face à Marine Le Pen. Le choix pour nous a été vite tranché. Et ce sera également le cas prochainement. Donc, alors...
Voilà, on parle quand même beaucoup aujourd'hui d'un second tour Macron-Le Pen. Là, vous appelleriez de nouveau à voter pour Macron ou quand même vous lui en voulez beaucoup?
Dans tous les cas, pas Marine Le Pen. Hein, ce sera pas... C'est pas dans notre ADN.
Oui, non, ça aurait surpris, effectivement. Voilà. Mais Emmanuel Macron, éventuellement.
Par défaut, pourquoi pas... il faut espérer que des candidats de droite ce soit la candidate de la droite, on va dire, dite classique, hein, parce qu'on a eu composé avec eux, notamment dans le passé, et je voudrais rappeler que les transferts de compétences qui ont eu lieu, les premiers qui ont été engagés, c'était sous la présidence de Sarkozy, et c'était Fillon qui avait engagé les secondes transferts
de compétences. Donc Valérie Pécresse plutôt qu'Emmanuel Macron au second tour. Si jamais elle est au second tour. On en reparlera. On aura l'occasion. Après, il y aura les législatives. Alors là, des candidats FLNKS, des candidats de chacune des composantes, ça va se passer comment? On rappelle qu'il y a 5 ans, vous étiez candidat, vous, Charles Bochetine, dans la première circonscription, et Louis Mapou dans la seconde. Est-ce que ça va être les mêmes candidats cette fois-ci?
Discussion également ouverte. Donc, on a dit que le mieux, c'est qu'on ait un candidat commun au sein du Front, proposé par le Front, et si possible, porté par l'ensemble de la mouvance indépendantiste et progressiste.
Un candidat dans chacune des circonscriptions?
Oui, comme on l'a fait jusqu'ici.
Avec un espoir d'avoir un député indépendantiste cette fois-ci?
Ben, pourquoi pas? On a vu que les écarts se réduisent, et puis on remarque également que en face de nous, les candidats, donc il y a des candidats de tous bords, même si issus d'un même groupe politique au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Donc voilà, les jeux peuvent être facilités pour nous.
Les décisions seront prises lors du prochain congrès du FLNKS pour ces candidats aux législatives?
Le 7 et 8 mars. 8 mai.
Les 7 et 8 mai. Donc on sera entre. Faudra aller vite, hein, quand même, pour vos candidats aux législatives.
Oui,
la campagne sera courte, là encore.
Oui, mais on a ce qu'il faut. On a des acquis. Et ceux-là, on veut les préserver, les sauvegarder.
Et vous ne serez pas candidat, hein?
Oh non, on place aux jeunes.
Et Louis Mapou non plus?
Ah là, faudra lui. Non, mais là, il a de la charge. Il y a une charge de travail, mais bon, il faudra lui poser la question.
Bon, bah, suspense. Vous nous tiendrez bien sûr au courant, Charles Bochetine, porte-parole du Palika. Merci d'accepter votre invitation.
Merci, Elisabeth.